Vous êtes sur RTL.
Bonsoir Isabelle, bonsoir à tous, bienvenue dans RTL Soir, c'est parti pour deux heures d'infos avec vous et ce soir à la une, le décès brutal de Gaspard Ulliel, c'était la gueule d'ange du cinéma français, un génie discret, l'acteur nous a quitté à l'âge de 37 ans, victime d'un grave accident de ski en Savoie. Dans RTL Soir, nous allons essayer de comprendre ce qui a pu se passer sur ces pistes, vous allez entendre l'émotion de la profession et puis nous reviendrons sur la carrière du comédien, révélé dans un long dimanche de fiançailles, acclamé avec Xavier Dolan, inoubliable en Yves Saint-Laurent.
Est-ce que tout ceci n'est pas dérisoire ?
Non.
Tu sais, des fois je ferme les yeux. Je vois des vêtements qui volent, qui flottent. Juste des formes, des couleurs en mouvement dans l'air. Puis je les ouvre, je ne vois que des choses lourdes et sombres.
Les autres titres de l'actualité à suivre maintenant dans votre journal. Marion Calais, bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous. Quand la course à l'Elysée s'invite au Parlement européen, Emmanuel Macron face aux eurodéputés, les élus français se sont fait entendre, notamment le candidat Yannick Jadot. Dans ce journal aussi, la vague Omicron qui fait flamber les contaminations dans de nouvelles régions en France. Et le Premier ministre britannique en pleine tourmente politique qui assouplit les règles sanitaires en Angleterre. Les courses, dans le Quintet Plus à Cagnes-sur-Mer, il fallait jouer le 9, le 7, le 3, le 10 et le 4.
Dans un quart d'heure, l'invité de 18h15 sera Dan Stanner. Depuis les États-Unis, c'est le vice-président de Moderna. Une quatrième dose sera-t-elle nécessaire pour tout le monde ? À quand la sortie de crise ? Nous lui poserons ces questions. 18h30, les dessous de l'actu. Les dessous de factures polémiques. Tiens, 500 000 euros par exemple pour évaluer le métier d'enseignant. Mais pourquoi le gouvernement a fait appel au cabinet de conseil McKinsey ? À 18h40, on va défaire le monde. C'est le programme, en tout cas, chaque soir avec Cyprien Signy et la fine équipe. Bonsoir Cyprien.
Bonsoir à tous.
Quel est le menu ?
Ce soir, on va vous faire découvrir la sensation de la Coupe d'Afrique des Nations. Les Comores et ses 11 joueurs, tenez-vous bien, Néa, Marseille. Et oui, au menu également, la dégringolada d'Arnaud Montebourg qui jette l'éponge. Et vous saurez enfin d'où vient l'expression en voiture Simone.
À 19h15, on va refaire le monde avec Éric Brunet et notamment l'Europe d'Emmanuel Macron. Et puis des points météo tout au long de l'émission avec vous, Peggy Broche. Bonsoir.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
La tendance,
Maussade du sud-ouest au nord-est est mieux ailleurs.
On vous retrouve dans quelques minutes.
RTL Soir.
Le journal, Julien Cellier, Marion Calais.
C'était une des belles gueules du cinéma français, un talent à la filmographie déjà conséquente. Gaspard Ulliel est donc mort brutalement à l'âge de 37 ans.
Son visage marqué par une cicatrice devenue fossette vous dit sûrement quelque chose. Gaspard Ulliel avait incarné Saint-Laurent, Henri de Guise dans La Princesse de Montpensier ou un écrivain faisant ses adieux à sa famille dans Juste la fin du monde.
Gaspard Ulliel a été victime hier d'un accident de ski à la station de la Rosière, c'est en Savoie. Bonsoir Serge Peillot.
Bonsoir.
Vous êtes le correspondant de RTL dans les Alpes. Que sait-on ce soir de ce tragique accident ?
Alors l'accident est arrivé vers 16h hier à l'intersection de deux pistes bleues sur le domaine skiable de la Rosière. Il y a eu une collision entre deux skieurs. L'un d'eux, Gaspard Ulliel, qui ne portait pas de casque selon les pisteurs, a été victime d'un grave traumatisme crânien. Lorsque les secouristes sont arrivés sur place, ils ont trouvé l'acteur inconscient avec un pronostic vital engagé. Gaspard Ulliel a alors été transporté par hélicoptère au CHU de Grenoble. Les médecins, des spécialistes des accidents de ski, ont tout fait pour le sauver. En vain, les blessures de l'acteur étaient trop graves. Son décès a été annoncé peu après 15h par sa famille via son agent. Le parquet d'Albertville a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de l'accident. Les hommes de la CRS Alpes ont procédé à des auditions toute la journée, dont celle du skieur entré en collision avec l'acteur.
Serge Peillot à Grenoble pour RTL.
La ministre de la Culture, Roselyne Bachelot, salue la sensibilité et l'intensité du jeu de Gaspard Ulliel. L'acteur Pierre Niney, qui lui aussi a incarné Saint-Laurent, dit avoir le cœur brisé. Le cinéma français saisi par ce décès brutal à l'image de Nicole Garcia qui avait joué à ses côtés en 2004 dans Le Dernier Jour.
C'était quelqu'un qui était toujours une telle bonne disposition, tellement amical et d'une bienveillance, voilà. Qui n'est pas toujours très partagé dans son métier où la concurrence est très forte, il est très élégant quoi, dans ses postures, sa manière d'être, sa manière de marcher, quoi, tout au fond de lui. Comme tout bon partenaire, il était un très bon partenaire, il avait quelque chose de très engagé dans les scènes. Il avait peut-être ce qui prévalait en lui, en tout cas ce qu'on sentait très fort, c'est une tendresse. Il avait une tendresse pour les gens qu'il aimait. C'est ça aujourd'hui qui fait le plus de mal quand un acteur avec cette lumière-là, cette tendresse qui disparaît, une étoile. Une étoile qui s'éteint.
Une étoile qui s'éteint. Nicole Garcia, jointe par Laurent Marsic pour RTL.
Et on reviendra évidemment sur cette courte mais déjà immense carrière de Gaspard Ulliel dans Laissez-vous tenter, dernière après 18h30. Et puis vous allez pouvoir le revoir aussi à la télé ce soir, puisque Paris Première lui rend hommage. Le revoir dans Jacoule Croquant, ce sera à 22h40.
RTL Soir.
L'autre grand titre à la une ce soir, c'est ce discours d'Emmanuel Macron au Parlement européen pour fixer les priorités de la présidence française de l'Union jusqu'en juin prochain. On vous retrouve à Strasbourg pour RTL, Marie-Bénédicte Allaire, ce Parlement européen où s'est invitée aujourd'hui la présidentielle française.
Ah oui, et les eurodéputés français ont saisi l'occasion d'avoir Emmanuel Macron face à eux, à commencer par Yannick Jadot, le candidat écologiste.
Monsieur le Président de la République, cessez de tendre l'oreille aux théories fumeuses et nauséabondes du grand remplacement. Occupez-vous de la réalité scientifique du grand réchauffement.
Un réquisitoire qui lui a d'ailleurs été reproché par certains de ses collègues écolo-allemands. Mais le RN, Jordan Bardella, ou l'insoumise Manon Aubry n'ont pas été plus conciliants.
Ce que vous protégez, ce ne sont certainement pas les gens dans la galère, mais bien les multinationales et les milliardaires. Oui, monsieur le président, vous êtes le président du mépris, mais au moins, vous l'assumez. Et comme vous l'avez résumé, le peuple, vous l'emmerdez.
Emmanuel Macron a répondu de manière technique à tous les eurodéputés, et pour ses opposants français, il a ajouté un peu d'ironie.
Vous avez dit quelque chose qui est très juste. Vous avez dit, je vous cite, « La présidence française de l'Union européenne ne doit pas être un marchepied électoral ». Et je pense que vous avez tout à fait raison. Donc, à plusieurs ici, vous avez eu raison de ne pas le faire.
Il a ensuite pris prétexte du retard dans son agenda pour esquiver une conférence de presse, peut-être pour ne pas avoir à commenter cette incursion dans la campagne présidentielle.
Marie-Bénédicte Allaire à Strasbourg pour RTL.
Et sur ces questions européennes, Emmanuel Macron a plaidé pour inscrire la protection de l'environnement dans la charte des droits fondamentaux de l'Union.
Tout comme le droit à l'avortement au lendemain de l'élection d'une anti-IVG à la tête du Parlement européen, Roberta Metsola, qui a promis de ne pas s'y opposer pour la plus grande satisfaction du chef de l'État.
Permettez-moi de vous le confirmer, le Parlement sera bien à vos côtés dans la lutte pour les droits des femmes.
Et je vous remercie, Madame la Présidente, pour les deux mots très clairs que vous avez eus pour votre engagement à soutenir la position du Parlement européen et votre adhésion au pacte Simone Veil. Je vous en remercie.
Emmanuel Macron, Roberta Metsola au micro RTL de Bénédicte Tassard.
C'est un nouveau chiffre qui a marqué les esprits hier. Près d'un demi-million de contaminations au Covid en France. Alors on a pourtant dit que ça allait mieux dans certaines régions. On a besoin de comprendre ce soir. Donc on a fait venir Virginie Garin en studio. Bonsoir Virginie.
Bonsoir à tous.
Comment ils s'expliquent ces chiffres?
Bien parce qu'Omicron n'est pas arrivé partout au même moment. Dans les régions où il est devenu majoritaire avant Noël, l'Île-de-France, les Deux-Savoie, la Corse, le Bas-Rhin, là, le taux d'incidence baisse vraiment. Alors, il est encore très haut, mais il baisse. Je vous donne les chiffres publiés à l'instant pour l'Île-de-France. On est passé de plus de 4000 à 3600 en une semaine. En revanche, ailleurs, là où Omicron est arrivé après Noël, eh bien, le nombre de cas continue d'augmenter. Les plus fortes hausses sont en Occitanie, dans le Nord, en Aquitaine. Mais avec Omicron, les indicateurs les plus importants sont à l'hôpital. Le nombre d'entrées continue d'augmenter un peu partout, mais pour des cas moins graves et des séjours moins longs. Et si on regarde les admissions en soins critique, là, elle baisse dans plus de la moitié des départements. Donc, il va falloir de la patience pour arriver au pic de cas partout et encore une bonne dizaine de jours de plus pour que la situation s'améliore vraiment à l'hôpital.
Patience et espoir, donc. Merci, Virginie Garin.
Et pendant ce temps-là, Boris Johnson, lui, lève toutes les restrictions. En Angleterre, terminer le masque, terminer le pass sanitaire. On sera à Londres, tiens, dans un instant. À tout de suite sur RTL.
RTL Soir, Julien Sellier. Julien Sellier,
RTL Soir.
18h10, la suite de votre journal sur RTL. Le télétravail n'était déjà plus recommandé. L'Angleterre s'apprête encore à desserrer l'étau des restrictions sanitaires.
Annonce de Boris Johnson cet après-midi, estimant qu'il y a de fortes chances que le pic de la vague Omicron ait été atteint. Marie Billon, vous êtes à Londres pour RTL et dans la capitale britannique et dans toute sa région, hein, il n'y aura bientôt plus d'obligations.
Oui, alors la consigne de travailler chez soi est levée dès aujourd'hui. Dès demain, plus de masques dans les classes d'école. Dès la semaine prochaine, plus de masques dans les lieux clos et plus de passe sanitaire non plus. Ces annonces, elles font partie de ce qu'on appelle l'opération viande rouge. Des idées qui plaisent au Parti conservateur et au-delà, car Boris Johnson est en grand danger politiquement. Un député lui a demandé s'il abolissait ces mesures sanitaires parce qu'il ne les comprenait pas. C'est vrai que Boris Johnson répète depuis quelques jours que s'il est bien allé à une de ses fêtes interdites à Downing Street, il n'avait pas réalisé que c'était une fête et personne ne lui avait dit que c'était une fête.
Quand un Premier ministre passe son temps à tenter de convaincre les Britanniques qu'il est stupide plutôt que malhonnête, n'est-ce pas le signe qu'il devrait démissionner ?
Les coups les plus durs sont venus de son propre camp quand même. C'est d'abord un de ses députés qui a rejoint les bancs du Parti travailliste. Et puis, à la fin de la séance, c'est l'ex-ministre du Brexit, David Davis, qui a pris la parole.
J'attends des leaders qu'ils assument la responsabilité de leurs actions. Vous êtes restés ici trop longtemps pour le bien que vous avez pu faire. Pour l'amour de Dieu, partez.
De plus en plus de députés conservateurs demandent la tête de Boris Johnson. Et si 54 d'entre eux en font la demande formelle, un vote de confiance sera automatiquement déclenché.
Voilà, Marie Billon à Londres pour RTL. En France, en revanche, on l'apprend ce soir, hein, la règle des 3 jours minimum de télétravail devrait être prolongée de 2 semaines. La mesure était en vigueur jusqu'à la fin de la semaine.
Enfin, c'est un document. RTL, les confidences de Stéphane Richard à moins de 2 semaines de son départ d'Orange.
À l'occasion d'un de ses derniers déplacements dans les Hauts-de-Seine, Stéphane Richard doit en effet quitter ses fonctions le 31 janvier au plus tard suite à sa condamnation dans l'affaire de l'arbitrage tapis Crédit Lyonnais. Affaire traumatique, comme l'a confié Stéphane Richard à Sophie Jousselin pour RTL.
Il y a une affaire qui n'a rien à voir avec Orange, qui est cette affaire de l'arbitrage tapis, qui pour moi reste une blessure interne, profonde. Bon, c'est la vie. Ceci étant dit, elle signe la fin d'une aventure et d'une page qui a été très importante dans ma vie, qui est celle d'Orange. Au moment là où on est aujourd'hui, je suis d'abord dans l'émotion de ce départ. C'est pas facile de partir d'une entreprise comme celle-là, après une aussi longue période. Et voilà, donc je suis dans l'émotion, je suis dans une forme de sérénité aussi, parce que j'ai confiance dans l'entreprise, dans son avenir. Je veux dire au revoir et merci.
Au revoir et merci, dit donc Stéphane Richard, le PDG d'Orange. Document RTL ce soir.
RTL Soir, la bonne nouvelle du jour.
Il y en a des bonnes nouvelles à l'Open d'Australie. Ah oui. Voilà Gaël Monfils qui s'est qualifié pour le 3e tour. Les gars, je suis de retour, a-t-il dit après sa victoire en 3-7 face au Kazakh Bublik. Qualification aussi d'Adrian Manarino.
Face au 11e mondial, c'est ça?
Exactement.
Voilà, la France qui gagne en tennis, c'est pas souvent.
On
s'en
réjouit.
En profite. Merci Marion, à tout à l'heure. Le temps maintenant pour demain. Peggy, vous avez de bonnes nouvelles, hein?
Alors, de bonnes nouvelles, oui, sur le nord-ouest et près de la Méditerranée. Là, on va retrouver des éclaircies à peu près toute la journée avec beaucoup de vent près de la Méditerranée. Attention, parce que sur le nord-ouest, entre la Picardie et l'Île-de-France, en allant vers le sud de la Bretagne, il fera froid le matin et donc du coup, les routes seront verglaçantes, donc prudence. Sinon, du sud-ouest au nord-est, on a encore cette perturbation qui va donner des flocons, notamment du massif central jusque dans les Vosges. Des flocons également en montagne sur le massif central à 300 mètres et à 1000 mètres sur les Pyrénées, avec également quelques averses. Et l'amélioration se fera dans l'après-midi sur les plaines du sud-ouest, parce que là, on va retrouver un temps sec avec un peu plus d'éclaircies. Les températures moins de gelées, en tout cas moins fortes demain, et les maximales seront comprises entre 4 et 8 degrés sur l'ensemble du pays, jusqu'à 14 près de la Méditerranée.
Merci Peggy.
La brigade RTL Soir.
Alors maintenant sur RTL, nous allons nous interroger. Est-ce que le nucléaire est vraiment l'énergie du futur? Ça, c'est l'un des grands débats de la campagne. La gauche dit, en tout cas une partie de la gauche, sortons à terme de l'atome. Emmanuel Macron, lui, veut construire de nouveaux réacteurs, comme d'autres candidats. Un bémol toutefois, l'autorité de sûreté nucléaire a taper du poing sur la table aujourd'hui. On va poser 3 questions à notre brigade RTL. Bonsoir Sophie Jousselin.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
L'ASN, c'est l'organisme qui surveille la sécurité de nos centrales et elle s'inquiète de leur fragilité.
Oui, alors fragilité, pas sur le plan de la sûreté. L'ASN parle là d'une situation satisfaisante, mais sur le plan de la disponibilité des réacteurs. Une dizaine est actuellement fermée en plein hiver. On atteint un plus bas historique pour cause de maintenance, de retard dû au confinement. Et s'ajoute à cela un récent problème de corrosion sur certains réacteurs. 5 sont concernés pour l'instant, les 2 de Chaux, 2 Civaux et 1 à Penly. L'inquiétude de l'ASN, c'est que ce défaut soit générique, c'est-à-dire qu'il touche tous les réacteurs. Mmh. Et là, le président de l'autorité de sûreté nucléaire a été cash. Si c'est le cas, il faudra les fermer pour les réparer. Alors, pas tous en même temps, mais ça fragilisera le parc nucléaire français.
En clair, des centrales qui vieillissent bien, ce n'est pas gagné.
C'est l'autre alerte de l'ASN. La France veut maintenir 50% de part du nucléaire dans le mix énergétique en 2050, mais elle projette de fermer 12 réacteurs sur les 56 actuels. Donc, on fera avec des nouveaux, mais il faut le temps de les construire, et aussi avec les anciens qui resteront, mais à une condition: qu'ils soient encore en état de fonctionner, mais ils auront plus de 50 ans et il n'est pas acquis aujourd'hui qu'ils seront encore sûrs.
L'autorité appelle à un plan Marshall.
Oui, c'est-à-dire, elle appelle à beaucoup de moyens, beaucoup d'embauches de personnel compétent. Le président de l'autorité de sûreté nucléaire a mentionné le besoin de 4000 ingénieurs par an sur plusieurs années pour construire des nouveaux réacteurs et mettre à niveau si possible les anciens qui resteront en service.
Les explications de la brigade RTL sur ce dossier si sensible dans cette campagne une présidentielle. Merci Sophie. Petite pause et puis sur RTL, notre invité ensuite sera Dan Stanner. C'est le vice-président de Moderna. Des millions de Français reçoivent en ce moment son vaccin. Est-ce qu'il faudra une quatrième dose? Tiens, et puis à quand les jours heureux? On se demande. Évidemment, on les attend avec impatience et on attend les réponses de Dan Stanner juste après ça. Tout de suite.
RTL Soir, Julien Cellier.
Forama.fr.
Julien Cellier,
l'invité d'RTL Soir.
Allez, bonne fin de journée. Vous écoutez RTL, 18h20. Et ce soir, nous nous interrogeons. Quatrième dose, nouveau vaccin. Quelles nouvelles armes face au virus dans les semaines à venir? On va essayer de se projeter avec notre invité maintenant. On va aller rejoindre Dan Stanner aux États-Unis. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes le vice-président de Moderna. Moderna, c'est environ 50% des doses administrées en France en ce moment. Tiens, juste un mot sur votre perception des courbes. Quasiment un demi-million de cas hier dans notre pays. Le pic, donc, n'est pas encore atteint. Est-ce que les vaccins, l'immunité, vont nous offrir des jours meilleurs à court terme?
Écoutez, il est clair qu'à l'heure actuelle, ce qui est important, c'est de respecter la stratégie vaccinale en vigueur dans chaque pays, d'avoir les trois doses, je crois, c'est la dose recommandée en France à l'heure actuelle, le schéma vaccinal complet, afin d'être mieux protégé contre le variant Delta, qui est encore en circulation, chose que probablement beaucoup de personnes ne sont pas au courant, ou bien entendu le variant Omicron, qui est celui qui se propage le plus rapidement.
Est-ce qu'il faudra une quatrième dose pour tout le monde à terme?
Alors, il y a déjà des pays qui ont pris cette direction et cette décision, en particulier le Chili et Israël. Ils ont pris cette décision. Le plus souvent, cette décision a été prise dans des pays en relation avec une population bien définie, que ce soit les patients âgés, médecins, personnel soignant, patients immunodéprimés. À l'heure actuelle, à nouveau, nous n'avons pas en Europe, à ma connaissance, pas encore pris cette décision de partir sur la quatrième dose. Donc, nous restons sur le schéma vaccinal recommandé par chaque autorité de santé, qui est aujourd'hui les trois doses.
Mais vous, chez Moderna, vous avez un retour déjà sur l'efficacité potentielle d'une quatrième dose? Est-ce qu'elle pourra mieux nous protéger contre la transmission du virus? On sait que les vaccins sont moins efficaces depuis Omicron sur la contagion.
Non, pour l'instant, nous venons de démarrer donc la troisième dose, la dose de booster. Donc, nous efforçons de bien comprendre la durabilité de l'effet de la troisième dose. Et évidemment, la chose sur laquelle nous travaillons, nous orientons nos équipes de recherche, c'est le développement d'un prochain vaccin, puisqu'on ne peut pas éliminer l'hypothèse dans laquelle le vaccin ou le variant actuel pourrait encore continuer à muter, et afin de se prémunir d'un vaccin plus performant contre les prochaines mutations éventuelles qui pourraient arriver entre maintenant et l'automne prochain.
Ce vaccin multivariant, on peut l'espérer pour quand? Est-ce que vous avez un premier retour déjà?
Alors, nous démarrons donc la phase clinique d'un vaccin pour protéger contre l'Omicron en ce moment. Donc, au mois de janvier, les études ont démarré. Nous espérons que ceci nous faudra pour terminer les phases cliniques 2 à 3 mois, donc probablement au mois de mars. Et ensuite, nous engagerons les discussions réglementaires avec l'agence européenne ou les divers instituts réglementaires autour de la planète. Donc, ce vaccin pourrait être, j'imagine, approuvé quelque part au niveau de l'été. Mais le vaccin sera, les études cliniques seront prêtes au mois de mars.
Il faudrait réduire les processus de validation pour vous, pour le produire encore plus vite, ou il faut prendre le temps?
Alors, je pense qu'il faut. Je pense que les discussions, on est quasiment sur base quotidienne en contact avec les agences européennes ou les agences américaines ou les autres agences réglementaires. Donc, c'est un dialogue permanent au quotidien. Par contre, nous devons clairement leur laisser le temps de s'assurer que le travail est fait en profondeur pour s'assurer qu'ils puissent donner, en tout cas renforcer la sécurité de tout vaccin ou de tout médicament qui arrive face à la pandémie.
Donc, vaccin multivariant espéré pour l'été du côté de Moderna. Vous travaillez aussi sur un vaccin 3 en 1, Covid, grippe, VRS. Ça, c'est nouveau. On peut l'espérer pour quand ?
Alors oui, comme vous avez vu, donc nous avons nos premiers résultats de vaccin pour la grippe ont été publiés, je crois, à mi-décembre, autour du mois de décembre. C'est un vaccin antigrippal quadrivalent. Nous avons surtout privilégié la vitesse. Nous avons voulu aller vite pour tester notre plateforme et notre technologie pour voir est-ce que ce que nous avons démontré dans le Covid pourrait marcher pour la grippe. Et nous sommes extrêmement contents que les premiers résultats de la phase 1 ont démontré pas de problème de sécurité et surtout des résultats comparables aux vaccins antigrippaux disponibles à l'heure actuelle sur le marché. La phase 2 a déjà été complétée, la phase 3 est en cours de préparation. Notre vision sur la grippe, donc c'est un grand pas vers nos ambitions dans le domaine respiratoire, c'est d'utiliser notre plateforme et d'amener un vaccin qui non seulement apporte, on imagine septembre-octobre, une piqûre qui apporte une protection contre le dernier variant du Covid, mais aussi contre la grippe et aussi par la suite
le virus respiratoire.
Tout ça dans la même piqûre, une piqûre par année. C'est vers ça qu'on s'oriente et on espère pouvoir rajouter un nouveau virus respiratoire chaque année et amener à terme une piqûre en automne qui protège les personnes contre tout virus respiratoire.
C'est peut-être l'avenir. Parlons d'avenir parce que c'est vrai que vous utilisez chez Moderna comme chez Pfizer, ce fameux ARN messager que tout le monde a découvert ces derniers mois. C'est aussi porteur d'espoir pour d'autres maladies. Vous avez des essais lancés ou en gestation pour un vaccin contre le sida, contre le virus d'Epstein-Barr aussi, qui, on le découvre, aurait un rôle déclencheur de la sclérose en plaques. C'est un espoir immense, cette technologie ?
Ah oui, c'est immense. Donc évidemment, j'en parlais encore avec des personnes dans certains gouvernements européens cet après-midi. Ce qui paraît pour le public nouveau, récent, pour des compagnies comme Moderna, cela fait 11 ans que nous travaillons que là-dessus, que sur la plateforme. Donc c'est toujours, tout est relatif, ce qui paraît nouveau pour le public. C'est pour nous 11 années de recherche et de travail que dans le domaine de l'ARN messager. À l'heure actuelle, nous explorons le potentiel de l'ARN messager dans diverses aires thérapeutiques et nous menons pas moins de 40 programmes de développement, dont 23 déjà au stade des études cliniques pour des vaccins préventifs ou curatifs. Évidemment, vous avez parlé d'un vaccin potentiel sur le virus de HIV. Évidemment, c'est un virus compliqué qui mute en permanence, qui mute extrêmement rapidement. Nous travaillons sur deux vaccins, un en collaboration avec la fondation de Bill Gates, et un deuxième. Et les deux vaccins, en fait, vont démarrer leur plan d'études cliniques au mois de janvier, donc ce mois.
Merci Dan Stanner, vice-président de Moderna, d'avoir été ce soir notre invité sur RTL depuis les États-Unis pour esquisser peut-être ce qui sera notre avenir en termes de vaccins dans les semaines, dans les mois, dans les années qui viennent. Merci d'avoir été notre invité depuis les États-Unis. RTL Soir continue dans un instant avec les dessous de l'actu, les dessous des contrats entre le gouvernement et un cabinet de conseil américain. Les factures interpellent quelque peu. Et puis dans Laissez-vous tenter dernière, on va évidemment revenir sur la carrière courte mais brillante de Gaspard Ulliel, l'acteur décédé à 37 ans seulement après un accident de ski. À tout de suite.
RTL Soir
avec Julien Cellier.
Citroën.fr.
RTL.
Bonne fin de journée, RTL Soir vous accompagne, 18h30.
RTL Soir avec Julien Cellier.
Et on vous rappelle maintenant l'essentiel de l'actualité. Marion Calèche.
Il avait 37 ans et encore une prometteuse carrière devant lui. L'acteur Gaspard Ulliel, qui avait notamment incarné Saint-Laurent, est mort brutalement à l'âge donc de 37 ans après un accident de ski hier à la station de la Rosière en Savoie. Jean Regaldo y est directeur du domaine skiable.
C'est un embranchement, une patte d'oie entre deux pistes bleues, donc de difficulté moyenne, qui ne présente pas de dangerosité particulière. Monsieur Ulliel est rentré en collision avec une autre victime, ce qui a entraîné sa chute. Les pisteurs qui ont effectué le secours ont pu constater qu'il ne portait pas de casque. Toutes les équipes du domaine skiable de la station sont très choquées par cette dramatique nouvelle.
Trois semaines au départ, les trois jours minimum de télétravail devraient être prolongés pour 15 jours supplémentaires. La ministre du Travail l'a annoncé tout à l'heure aux partenaires sociaux. Et puis sans l'intervention de l'État pour limiter à 4% la hausse des prix de l'énergie, les tarifs réglementaires réglementée aurait augmenté de plus de 44%. C'est ce qu'annonce ce soir la Commission de régulation de l'énergie.
Merci Marion, bonne soirée. Quid de la météo pour demain, cher Peggy?
Un peu mieux demain. On va retrouver un ciel plus lumineux dès le matin sur le nord-ouest et près de la Méditerranée avec beaucoup de vent. Ailleurs, du sud-ouest au nord-est, le temps restera gris avec encore quelques averses de pluie ou de neige du massif central aux frontières de l'est et du nord. Et puis ça va se dégager un peu plus dans l'après-midi entre le nord-Aquitaine et Midi-Pyrénées. Tout ça sous des températures encore froides le matin, mais des gelées beaucoup moins fortes et des maximales stationnaires de 4 à 8 degrés et jusqu'à 14 près de la Méditerranée.
Merci Peggy.
RTL Soir,
les dessous de l'actu.
Et dans les dessous de l'actu maintenant, les dessous des cabinets de conseil. Le gouvernement a fait appel au cabinet McKinsey pour l'aider à y voir plus clair en pleine crise sanitaire. Alors hier, les patrons de cette entreprise ont été entendus au Sénat et certains chiffres ont quelque peu détonné. Bonsoir Vincent de Rosier.
Bonsoir.
Déjà, ce cabinet, c'est quoi exactement ?
Alors, c'est un géant américain du conseil, une grande boîte privée comme Accenture, Sitwell ou Deloitte. Ça ne vous dit peut-être rien, mais ces sociétés viennent prêter main forte, en quelque sorte, à l'administration française. McKinsey est devenu célèbre avec la crise du Covid, car l'américain a été missionné par l'État pour organiser la logistique, le transport de vaccins ou pour aller chercher de bonnes idées à l'étranger.
Mais attendez, personne dans les ministères n'est capable de faire ce travail. On a besoin d'aide extérieure ?
Alors parfois oui, pour des crises massives comme celle du Covid dont je viens de vous parler. Le gouvernement assure qu'il n'y avait ni les compétences ni le nombre suffisant de fonctionnaires pour gérer. Le problème, c'est que le recours à ces cabinets est systématique, reconnaît le gouvernement. Un haut fonctionnaire confie d'ailleurs à RTL, on paye des cabinets américains au lieu de développer notre savoir-faire. C'est absurde.
Ça coûte cher, visiblement, l'appel à de tels cabinets.
Plusieurs centaines de millions d'euros d'argent public, oui, entre 2018 et 2020, ça a coûté 145 millions d'euros par an, soit plus de 400 millions d'euros. Et depuis le début de l'épidémie, eh bien, la France a dépensé 14 millions pour lutter contre le Covid. McKinsey a empoché 4 millions d'euros dans l'affaire, avec des réussites sur la logistique des tests ou des vaccins, plus ou moins convaincantes.
Donc, ça fait polémique.
Oui, notamment lorsque le Sénat interroge les patrons du cabinet américain, c'était hier, sur leur dernière mission pour l'éducation nationale.
Vous avez obtenu un contrat d'un montant de 496 800 euros pour, je cite, évaluer les évolutions du métier d'enseignant. Vous pouvez nous dire à quoi aboutit cette mission ?
Pour réfléchir à quelles étaient les grandes tendances d'évolution de marché, des évolutions du secteur de l'enseignement.
Oui.
Voilà, les sénateurs pas franchement convaincus, mais la ministre de la fonction publique, Amélie de Montchalin, promet d'économiser plusieurs millions d'euros en réduisant les dépenses de conseil de 15%.
Les dessous de l'actu signé Vincent de Rosier ce soir. Merci pour vos explications.
RTL Soir.
Les dessous de l'actu.
Il est 18h34.
Laissez-vous tenter, dernière.
Et donc un laissez-vous tenter dernière, évidemment très particulier ce soir. On l'a longuement évoqué dans le journal. Gaspard Ulliel nous a quittés à l'âge de 37 ans seulement. L'un des acteurs sans doute les plus prometteurs du cinéma français, disparu tragiquement des suites d'un terrible accident de ski dans les Alpes. Bonsoir Stéphane Boutsock.
Bonsoir Julien, bonsoir à tous.
On va revenir bien entendu maintenant sur sa filmographie, rendre hommage aussi à cet immense acteur qui en fait aura refusé tout au long de sa trop courte carrière, 37 ans seulement, d'être le jeune premier auquel tout le destinait.
Ouais, une gueule, une beauté féline qui n'est pas sans rappeler celle de Delon, un peu au même âge, un physique qui fit de lui l'égérie d'un grand parfumeur dans un spot signé Scorsese. Mais le comédien, en fait, très tôt a eu d'autres ambitions. Il a toujours choisi le cinéma d'auteur. Michel Blanc dans Embrasser qui vous voulez, Téchiné dans Les Égarés, Jean-Pierre Jeunet dans Un long dimanche de fiançailles, avec un César de meilleur espoir, ou Tavernier dans La princesse de Montpensier. Tout cela lui a forgé vite un parcours exigeant, mais aussi régulièrement ponctué de succès public.
La notoriété, le star system, Stéphane, ce n'était pas du tout son truc. Hein.
Absolument pas. Gaspard Ulliel, c'était un garçon timide, profond. Après une vaine tentative hollywoodienne dans la peau du jeune psychopathe Hannibal Lecter en 2017, le comédien a bifurqué vers un cinéma encore plus pointu. On l'a vu chez Mouret, chez Rouen, chez Jaco, chez Guillaume Niclot ou Bertrand Bonello. Rappelez-vous, on l'a entendu tout à l'heure, qui lui a offert en 2014 le rôle d'Yves Saint-Laurent, nomination au César de meilleur acteur à la clé. Un trophée que Gaspard Ulliel remporte l'année suivante grâce à Xavier Dolan dans le film « Juste la fin du monde ».
Je suis curieux de savoir, voilà, de revoir les lieux, de voir comment ils ont évolué, comment le temps les a modifiés, malmenés.
T'as pas un plan plus à la mort moelle d'eux pour les faire en famille comme ça tous ensemble là,
Antoine?
Non mais je dis pas ça pour t'insulter, oui, mais
Non, de toute évidence, c'est pas grave. Non, c'était une mauvaise idée.
Avec Marion Cotillard et Vincent Cassel hein, dans cet extrait.
Absolument, absolument. Cette reconnaissance du métier et du public n'avait en fait pas changé l'itinéraire qu'il s'était choisi, comme il me le confiait, quelques temps après les Césars, alors qu'il venait d'enchaîner au bout du monde trois tournages.
Le César, pour moi, c'est surtout quelque chose d'assez rassurant dans un environnement rempli de doutes. Hein. C'est un métier où on est constamment habité par le doute. Et voilà, c'est une marque de confiance qui rassure.
Gaspard Ulliel n'avait plus tourné au cinéma depuis 2019, apparaissant dans quelques rares productions télé. On va le voir notamment dans quelques semaines dans Moon Knight, une série Marvel pour Disney+. Mais sa priorité, c'était désormais sa vie de famille et son petit garçon qui a 5 ans.
Merci Stéphane Boutsock. Terrible disparition. Donc on entend toute l'émotion du monde du cinéma depuis maintenant 18h. On reviendra bien entendu sur le décès brutal de cet acteur si prometteur à l'âge seulement de 37 ans dans le journal de 19h. Merci Stéphane.
Laissez-vous tenter, dernière.
Allez, petite pause et ensuite dans RTL Soir, on va défaire le monde avec le trio Cyprien Sini, Guillemette Franquel, Laurent Tessier.
Oui.
Bonsoir
oui.
Les amis.
Bonsoir à tous.
Tiens, dans un instant, on va refaire les Comores. Ouais. C'est un peu la sensation de la Coupe d'Afrique de foot qui se tient en ce moment et surtout, on découvre que la moitié de l'équipe est née où ?
À Marseille.
Eh ben oui, chez vous. Comment, pourquoi ? Réponse juste après ça.
On défait le monde, c'est dans un instant sur RTL.